les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons donc aujourd'hui ensemble le cheminement d'Alexandra David-Nel. La semaine dernière, nous l'avons quittée tandis qu'elle prenait congé avec le 13e Dalai Lama. Une rencontre d'importance pour elle puisqu'elle veut comprendre le lamaïsme, c'est-à-dire le bouddhisme tibétain qui est né au 7e siècle. Nous sommes toujours en avril 1912 au Sikkim. Tout au long de son long périple, Alexandra utilise différents moyens de locomotion. Le début de son voyage que l'on a suivi la semaine dernière s'est fait tout d'abord en bateau, depuis la Tunisie, puis en chemin de fer. Mais une fois en Asie, elle utilisera plutôt les yaks, parfois les porteurs, mais aussi ses jambes, surtout les derniers mois pour l'Asta. Mais n'anticipons pas, il y a encore énormément de chemin à faire. Lorsqu'elle quitte Kalimpong pour Pétong, elle est alors à cheval. Et ce jour-là, elle chevauche environ pendant 5h30. Dans la lettre que je vais lire, on apprend qu'Alexandra a nommé son cheval Bucéphale. Bucéphale, vous vous en souvenez sans doute, était le cheval d'Alexandre le Grand, que lui seul est parvenu à dresser et qui l'a suivi dans ses conquêtes en Asie. Alors elle écrit « Je ne me sens pas rompue du tout. Et de fait, je crois que si je devais continuer ce genre d'exercice, je finirais par y prendre goût. Je m'habitue à mon cheval et il paraît qu'il s'habitue à moi. Il ne semble plus en faire autant à sa tête que les deux ou trois premiers jours. Il a vu une ou deux fois que j'avais très bien la force nécessaire pour l'empêcher d'aller brouter ou de s'arrêter quand l'envie lui en venait. Et peut-être me respecte-t-il un peu plus en son cerveau chevalin. Ce qu'il a tout de suite appris, par exemple, c'est qu'il y avait fréquemment dans ma main du pain ou de la canne à sucre et il a une façon de me regarder interrogativement qui est amusante. Le pauvre animal me porte à travers des sentiers plutôt mauvais. Aujourd'hui, nous avons eu des kilomètres en descente raide parmi des pierres et de la boue, et nous avons bien failli, Bucéphale et moi, nous aplatir dans un de ces trous boueux qui s'est trouvé profond sans que nous puissions le voir. Mais Cocotte s'est vivement redressée et moi, je suis restée en selle. Je commence à prendre confiance. Et puisque, au bout de près de 10 jours d'expérience, nos 8 membres respectifs sont encore entiers, on peut espérer qu'ils le demeureront. C'est égal. Pour un cavalier de ma force, le terrain d'exercice est plutôt singulier. L'étape sera dure demain, 32 kilomètres. Ce n'est rien comme distance, mais vu l'état des chemins, les côtes raides et les descentes à pic, cela compte. Et c'est certainement au bas mot 8 heures à passer sur mon cheval. Le 22 avril 1912, Alexandra fait, dit-elle, une arrivée sensationnelle à Gangtok. Gangtok, c'est la capitale du Sikkim. Alors, pour vous situer, le Sikkim est dans l'Himalaya. C'est un ancien royaume de culture tibétaine qui a été rattaché à l'Inde en 1975. Donc, je cite toujours une lettre d'Alexandra à Philippe. Un drame. Ce drame, c'est l'orage éclatant de toutes parts, en dessus, en dessous, éclair sous les pieds et sur la tête, et pluie. Oh, la pluie! On marche sans trop s'inquiéter des contingences et on gagne Gangtok. Mais arrivé au bas de la colline, sur laquelle perche la capitale du Sikkim, ce n'est plus pleuvoir, c'est je ne sais quoi que je n'ai jamais vu. Nous arrivons sur le plateau, et là, la rafale est telle que nous recevons avec la pluie tout ce que la trombe entraîne, branches d'arbres, objets arrachés. Je crois un instant que mon pauvre poney et moi allons être balayés dans la vallée avec tout le reste. On ne voit pas devant soi, aveuglé, suffoqué, et tout à coup, pour nous achever, une grêle brûle avec des grêlons de la grosseur d'une noisette nous crible. Mon casque, que je retiens d'une main, me protège la figure. Mais ma pauvre main, heureusement gantée, est violemment meurtrie. Quant au cheval, il n'a pas de casque et commence à s'affoler. Je le tiens de mon mieux et, vraiment, je montre quelques bravoures en cette circonstance critique avec son contrebas de 300 mètres au moins à ma droite. Je pense, où est ma nervosité d'antan? Est-ce l'usure ou la sagesse qui rend mes nerfs si paisibles? Je pousse mon cheval vers une habitation que j'entrevois, mais pour la gagner, il faut tourner et faire face à la grêle. Ma pauvre bête gronde, hennie de douleur et de peur. J'ai craint un instant d'avoir pris froid dans l'aventure. Je me sentais un peu fiévreuse et courbaturée. Car si mon waterproof est bon, l'eau était descendue par le col et j'étais mouillée jusqu'à la chemise. J'ai fait allumer un grand feu dans ma chambre et le soir, j'ai eu une boule d'eau chaude dans mon lit. En mai 1912, Alexandra prend la route du Tibet. Pour elle, est campée le premier jour à 3000 mètres, le second jour à 4000 mètres et le troisième encore un peu plus haut. Il va lui falloir beaucoup de plus de temps que prévu. Le voyage se prolonge par maintes péripéties. Enfin, en juin 1912, elle a traversé l'Himalaya de part en part, de l'Inde au Tibet, à peu près en ligne droite, directement du sud au nord. Et la voici, redescendant des nues, comme elle l'écrit, et pourtant, tout est difficile dans cette véritable aventure. Donc, nous sommes toujours au Sikkim, en juin 1912, et voici ce qu'elle écrit. Je m'y suis hissée aux 5000 mètres d'altitude et même un peu plus haut. C'est là un fait dont le souvenir me restera agréable. Et du reste, peu d'Européens sont montés si haut. Dois-je dire que l'entreprise est difficile? Ce serait exagéré. Il suffit de jouir d'une bonne santé et de l'argent nécessaire aux frais du voyage, mais qui sont bien médiocres. Je mentirais pourtant si je prétendais que c'est là une simple promenade à la portée de tous. Venir à cheval jusque dans le Haut-Sikkim, par des chemins extravagants, camper ensuite dans les vallées de la frontière, affronter le vent des plateaux tibétains à ces hautes altitudes, non, c'est là plus que du simple jeu. Je suis robuste. Et cependant, l'autre matin, j'ai cru mourir. J'étais arrivée à l'étape bien avant mes porteurs et mes tentes, et c'était le jour où je quittais le Maharaja, continuant vers Jhansi. Il me fallut attendre 3 heures durant, sans abri, sous les rafales et la neige cinglante. Mon cuisinier se dit malade en arrivant. Je n'eus qu'un peu de thé chaud, mais que bien après. La nuit vint, je me couchai sans feu, naturellement. Ma tente fermait mal, par erreur. Au départ, on avait emporté les montants de bois d'une autre tente, d'une autre forme et plus haute, de sorte que la toile n'arrivait pas partout au sol. Je ne dormis guère, transi, brisé, la respiration courte, gênée. Au matin, il y avait un épais tapis de neige sur toute la vallée. La tente en était couverte. Je ne pouvais pas me mouvoir. J'étouffais, ayant dans la poitrine un petit sifflement qui ne me parut pas de bon augure. Je me dis, voilà, c'est la pneumonie ou l'angine de poitrine. Avec ce froid, sans soin, cela ne va pas traîner. Jamais je n'aurai la force de faire les 60 kilomètres qui me sépare des premières habitations. Et même là, il n'y a aucun secours médical à espérer. Je réfléchis un instant et me dis qu'après tout, il n'y a aucun secours médical à... Je me dis qu'après tout, c'était là une belle mort, parmi les solitudes majestueuses, au milieu d'un voyage pareil au mien, et que je n'avais qu'à prendre la chose du bon côté. Je pris donc mon appareil photographique et je me glissai à plat ventre sous la toile, manquant de force pour ouvrir la tente. Je croyais que je ne pourrais plus me remettre debout. Il faisait froid, un vent âpre, tout était sous la neige. J'ai pris quelques vues et rentré m'affalé sur une de mes caisses dans la tente. Je bus chaud, je demandai de l'eau chaude pour un bain de pied. À midi, je me sentis un peu mieux, mais toujours fort oppressée. Je fis sceller le poney et je partis jusqu'au soir. J'ai vu cet après-midi un pays de rêve, un pays ressemblant à notre Sahara, avec des monts oranges tranchant sur un ciel d'un bleu intense. Mais le sommet des monts oranges se couronnait d'une coiffure de neige et en d'étroites vallées, dormaient de petits lacs aux eaux gelées. Une neige à demi glacée une sorte de gélatine à l'italienne, tombait par instants et vous cinglait cruellement. Les gens que j'avais emmenés, qui étaient insensibles au paysage, semblaient aux martyrs, et de les traîner derrière moi gémissant me fit brusquer mon retour, ce que je regrette infiniment. Le lendemain matin, je compris qu'en dépit des sifflements de ma poitrine, je ne m'en irais pas encore. Oui, tous ces jours passés sous la tente, avec de 2 à 5 degrés à midi et un vent terrible, ont été durs. Mais je connais maintenant les délices de la cuisine faite au feu de bouse de veillac, car il n'y a pas d'autre combustible au Tibet.
Thank you.
Et bien sûr, Alexandra continue son chemin et nous la retrouvons à Sinamena, au Népal, le 19 janvier 1913. Elle raconte à Philippe une aventure extraordinaire qui lui est arrivée. Je suis là comme les yogis classiques de ce pays. Je songe à la parole revenant si souvent dans les textes que la jungle est un délicieux séjour pour les sages. Je ne suis pas un sage, mais je trouve la jungle délicieuse tout de même. Je suis partie, les yeux clos, en des méditations dont le sujet importe peu, lorsque j'entends, vers ma gauche, des pas ouatés dans les feuilles mortes. Des pas précautionneux de chats, mais de chats pesants. Je me dis que la distraction est chose mauvaise et m'efforce de ramener mes pensées sur mon sujet. Pourtant, au bout de quelques instants, j'ouvre les yeux et regarde. À ma gauche, dissimulée à demi par le feuillage, à une vingtaine de mètres, il y a un corps long, au pelage strié de noir. De la tête, je ne vois que les oreilles droites. Ma première pensée est idiote. Je dis un zèbre. Et puis, je songe qu'il n'y a pas de zèbre dans le pays et que le pelage est trop roux pour être celui d'un zèbre. Et alors, je songe un tigre. Nous sommes près du crépuscule, mais il fait encore tout à fait clair et je vois bien le corps long, les oreilles dressées. Je dis un tigre et ma foi, confessons-le, j'ai un battement de cœur dont je souris très railleusement pour moi-même. Et oui, quoi? Un tigre qui me voit probablement comme je le vois et qui songe immobile comme je songe immobile. Que faut-il faire? Me lever? M'en aller? S'il le souhaite, en deux bonds, il m'aura atteint. Et puis, il est de tradition dans l'Inde qu'un sannyasin ne fuit devant aucun danger. Et cela m'intéresse de sentir le petit reste d'émotion nerveuse qui s'agite en moi. Je me demande, que vas-tu faire s'il sort du taillis? S'il s'avance vers toi? Mais je sais déjà que l'espèce d'entraînement, d'autosuggestion pratiquée de longue date seront les plus forts, que je ne bougerai pas, que je ne déshonorerai pas la robe couleur d'aurore qui m'enveloppe. Et, puisque je le sais, je me dis qu'il convient aussi de laisser ce tigre pensif à ses méditations et de reprendre les miennes. Ce n'est qu'un tout petit effort. J'ai fermé les yeux de nouveau. Après tout, tout n'est que rêve. J'ai oublié le tigre et la jungle et moi-même. Lorsque je sors de mes pensées, l'idée du tigre me revient. Et je me dis, bof, j'ai vu un tas de feuilles rouges tranchant sur les feuilles noircies. Je vais le revoir toujours à sa place, mon tigre de feuilles sèches. Je regarde, rien. J'essaie de toute ma volonté de créer une image identique parmi le feuillage, mais en vain. Il n'y a pas de feuilles rousses. Et entre les branches vertes, à la place où le grand corps long interceptait la vue d'assez loin, je vois un coin de ciel. Plus tard, dans la nuit, le rugissement d'un tigre, bien que venant d'assez loin, met tout mon monde sur pied. Coïncidence? Ou bien est-ce le même fauve qui a passé près de moi? Vas-tu penser, écrit-elle à Philippe, son mari, que je suis brave? Certains seraient tentés de le croire. Mais non, vois-tu, tout cela, bravoure ou lâcheté, c'est affaire d'hypnose dans la plupart des cas. J'ai lu tant d'histoires de yogis et de saints qui regardaient les fauves en face que mécaniquement, automatiquement, je ferais de même. Ce qui aurait été brave réellement, cela aurait été non pas de poursuivre ma méditation sur le regard du tigre, car cela est dans la même routine hindoue, mais de faire un geste inédit, non prévu dans les histoires, un geste occidental, prendre mon appareil photographique que j'avais sur moi et d'essayer de photographier l'animal. Oh, il est probable qu'il se serait sauvé ou qu'il m'aurait happé, mais la jolie témérité eût été d'essayer. Nous allons laisser Alexandra au cuisine et nous la retrouverons la semaine prochaine à Bénarès, en Inde, sur la rive gauche du Gange, une ville qui est principalement dédiée à Shiva. À la semaine prochaine.